depuis le début du récit de la Torah, de l'histoire humaine, jusqu'à la période du déluge, je vais attends. Je vais d'abord vous demander si la dernière fois je vous ai donné des références. Qui se souvient de ça? Est-ce que je vous ai dicté des références la dernière fois? Vous êtes sûr? Oui, non? Lesquelles? Qui s'en souvient? À quel sujet?
Chapitre
5. Non, si c'est chapitre 5, alors je vous ai donné toute une série de références. C'était à quel sujet? Pardon? Est-ce que vous avez lu ces références? Vous les avez préparées? Alors, de quoi il s'agit dans ces références? C'est pas exactement ça. Alors, qui se rappelle à propos de quoi je vous ai donné ces références-là? À propos? Très bien. Alors, combien il y a eu de sourcils depuis le début? 7. Quel est le premier? Non, laissez-le parler seul, c'est lui que j'interroge. Quel est le premier des sourcils? C'est lui qui parle. Quel est le verset du premier sourcil? C'est-à-dire, je vous ai donné toutes les références de ces 7 sourcils. Alors, quel est le premier verset?
C'est dans le chapitre 24.
Dans le chapitre quoi?
Dans le chapitre 5.
Est-ce que tu as revu tes notes? Bon, mais s'il s'agit de Caïn, c'est dans quel chapitre? Dans le 4. Alors, donne-moi le verset de ce premier. Tu veux enlever tes... Je sais pas comment dire en français. Je vous ai déjà demandé de ne pas creuser les jambes en courant. Cite le verset de ce sourcil. Simplement que je vois si vous avez ces repères-là. Alors, tu y es? Qui a trouvé le verset? Oui? Parle plus fort, j'entends pas et je vois pas. Pasouk? Tête? Main? Dis-le en français. Écoute, j'entends pas. Parle plus distinctement et donne-moi le numéro du verset, c'est tout ce que je te demande. Pasouk? Tête? Tête, c'est le. Tu veux dire 9? Et où est le sourcil là? Chut, c'est elle qui parle. Alors, lis le verset. Alors, lis le verset. D'abord en hébreu, ensuite en français. Mais parle plus fort, hein. Voilà. Et où est le sourcil là-dedans? Où tu vois ça dans le verset?
De répondre franchement à la question de ce
Alors, où est le sourcil? Attends une minute. Tu comprends qu'est-ce que ça veut dire un sursis? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Comment je définis ça en hébreu? Qui se souvient du mot hébreu que je vous ai donné? J'ai dit deux fois, il me semble. C'est rare?
Orca.
Ken. Qu'est-ce que ça veut dire orca en hébreu? Ou arca aussi? Quelle est la racine de ce mot orca? Pas exactement ça. Quel est le mot qui indique la notion de sursis? Qu'est-ce que c'est un sursis en français? Quand un tribunal condamne quelqu'un à une peine avec sursis, qu'est-ce que ça veut dire?
Un
délai. Hein? Un délai, très bien. Un délai, c'est quoi un délai?
C'est la prochaine fois qu'il passe devant un tribunal, il aura donc cette peine plus la peine d'avance.
Oui, mais un délai, ça implique quoi? Qu'est-ce qu'on donne comme chance?
Du temps.
Du temps, voilà. Alors tu vois qu'il n'y a aucune allusion à ça dans le verset que tu cites. C'est tout à fait autre chose. Alors, mais qu'est-ce que tu as dit toi tout à l'heure? Edouard. Alors lis le verset d'Edouard. Très bien. Quel est le mot qui indique quel est ce sursis? C'est elle qui parle.
Continuer un signe.
Voilà. Et quel est ce signe?
On avait dit que c'était l'être émette qui est dans les sous-enfants, et que c'était son descendant qui a rendu lui-même aussi.
Et qu'est-ce que ça veut dire que le mot émette?
Ça veut dire que ce sera au descendant, donc...
Non, ça c'est une conséquence de ce que je te demande.
Ça veut dire que la justice sera rendue.
Ça veut dire qu'il faut que la justice soit rendue, c'est-à-dire qu'il doit être jugé. Bon, alors ça c'est le premier sursis, et je vous en ai indiqué 7. Alors, j'ai encore une fois l'impression que vous avez des idées un peu vagues. Hein. Je vais vous donner un conseil. On étudie très peu de versets pour chaque sujet. Alors, je vous ai déjà demandé, mais je vous le répète, apprenez ces versets par cœur, tout simplement. Alors, je n'aurai jamais le temps, il nous faudrait toute l'année pour étudier en détail tous ces sursis-là. Simplement, je vais reprendre un peu l'idée générale. La faute principale dont tout ce récit parle, c'est la faute du meurtre de Abel par Caïn, c'est-à-dire l'atteinte à la relation à autrui, à l'autre créature. Pendant toutes ces 10 générations dont la Torah raconte l'histoire, c'est le problème essentiel sur lequel l'humanité est jugée. Et en fin de compte, lorsque tous les sursis auront été épuisés, c'est-à-dire qu'il s'avère que cette civilisation, cette forme de civilisation, n'arrive pas à retrouver la relation de dignité réciproque d'autrui à autrui, c'est-à-dire que la violence va s'installer de manière définitive et irréversible. On a vu différentes étapes de ce progrès de la violence dans l'histoire. La sanction arrivera avec l'événement du déluge. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'événement du déluge sanctionne tout un processus de civilisation, mais qui commence à la faute de Caïn qui a tué Abel. Le déluge sanctionne la faute de Caïn et surtout les conséquences que cela a eu pour la société humaine. Alors j'aurais bien voulu avoir le temps de vous étudier ces différents sursis pour la raison suivante, c'est que lorsqu'on étudie, on essaye de faire l'analyse, la carte d'identité d'une ère de civilisation donnée, on s'aperçoit que c'est pratiquement ce schéma-là qui se développe dans toute civilisation. Et ce serait très intéressant, mais surtout important, de diagnostiquer les signes de ce que la Torah a enseigné dans la civilisation contemporaine. Si on avait le temps, on le ferait en détail. Peut-être qu'un jour, je reprendrai un de ces exemples pour vous aider à comprendre comment cette relecture chaque année depuis des siècles et des millénaires du texte biblique nous aide à comprendre ce qui se passe dans les civilisations où nous vivons. C'est-à-dire que la Torah nous donne une sorte de modèle des problèmes qui se posent à la société humaine, la manière dont l'humanité a l'habitude de réagir dans les deux éventualités, quand ça échoue ou quand ça réussit, de telle sorte d'être averti, de savoir comment se comporter lorsque les mêmes situations réapparaissent. Vous avez peut-être déjà eu dans les cours précédents quelques exemples de ce type de diagnostic, mais on le verra de plus en plus en détail dans les sujets suivants. Alors nous allons étudier un verset dans un ensemble de versets qui est à la fin de cette histoire des 10 premières générations, qui montre que c'est lorsque il y a un jugement de violence définitive, irréversible, il n'y a plus d'espoir qu'un repentir quelconque. C'était la perche qui avait été tendue à Caïn dans le verset que tu as cité, toi, le verset 9, déjà depuis le début. Est-ce qu'il y a une chance de repentir possible? Alors à ce moment-là, les choses s'arrangeaient, mais, et c'est pourquoi le sursis est donné, pour laisser le temps de se préparer au repentir, ou de faire que la tendance au repentir soit efficace, eh bien, tout cela échoue, il y a saturation de violence, alors le verdict est définitif et irréversible, cette civilisation-là va être détruite par le déluge. Alors, essayez de comprendre ces deux choses à la fois. Le déluge va sanctionner la situation de violence dans la génération de Noé, la dernière génération de cette histoire, mais c'est en fait la sanction de la faute du commencement de cette histoire lorsque Caïn a tué Abel. C'était suspendu jusqu'à ce que finalement il s'avère qu'il n'y a plus aucune chance que ça s'arrange. Alors la sanction arrivera. Alors j'espère que c'est suffisamment clair, je le répète, il faut comprendre ces deux choses à la fois. De manière directe, les causes immédiates, c'est la violence dans la civilisation humaine. Mais de manière profonde, c'est la sanction du meurtre de Caïn par Abel. Parce que finalement, tout comportement de violence, c'est cette situation-là, c'est le frère tuant le frère. Je vous donnais un exemple dans un enseignement du Talmud, et je reviens à ce texte, nous allons étudier ensemble, lire ensemble. Le Talmud, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé une fois, en tout cas cette année, le Talmud dit ceci, je vous le dis d'abord en hébreu, « Kores keilu oved avodazara ». Celui qui se met en colère, c'est comme s'il était idolâtre. Est-ce qu'on a déjà étudié ça? Oui. Alors, vous prendrez ça comme illustration de ce problème. Ça veut dire que c'est la situation fondamentale de la relation du frère au frère, elle est déjà mise en question au niveau ne serait-ce qu'un comportement comme la colère. Pourquoi le Talmud dit, compare ça à l'idolâtrie? Alors, la réponse, vous allez la retenir vous la rappeler. Ça veut dire, si j'ai une tendance à détruire une autre créature du même créateur, ça signifie que je ne crois pas au fond qu'elle est elle aussi la créature du même créateur. Comme s'il y avait un Dieu qui m'avait créé à moi et un autre Dieu qui l'avait créé à l'autre. C'est ça l'idolâtrie. Ça porte atteinte à l'unité de Dieu. Vous voyez, le fait de, dans une situation comme la colère, de mettre en question la dignité de créature chez l'autre équivaut à ce que définit l'idolâtrie, c'est-à-dire de porter atteinte à la notion d'unité de Dieu. Vous aurez différents exemples de ce type. Alors, vous allez prendre le texte au chapitre 6. On va le prendre à partir du verset 5. Alors, chapitre 6, c'est Perikvar, verset 5, et vous n'avez pas de livre, allez en chercher. Là-bas en haut. Non, essayez d'en avoir un chacun, on n'étudie pas deux sur un même livre. Portez-lui un livre de vous, s'il vous plaît. Alors, suivez avec moi. Vayar Hashem, et Dieu vit. Un jour, on étudiera le problème des différents sens du nom de Dieu employé par la Torah. Il y a dans le texte de la Torah 10 mots différents pour faire allusion à l'intervention de Dieu dans le monde. Et chacun d'entre eux doit être compris de manière très précise, parce que chacun de ces noms représente un des attributs de l'unité divine, c'est-à-dire une des modalités à travers lesquelles Dieu intervient dans le monde. Alors je ne traduis pas maintenant, sinon je fais allusion. C'est un des noms qui désigne celui qui est Dieu. C'est le nom de Hachem. Tout ça on étudiera plus tard en détail, mais je pense que vous aurez d'autres cours dans votre programme pour cela. C'est très important de savoir si le texte emploie le mot de Elohim, qui désigne Dieu en tant que créateur, Ou si le texte emploie le mot de Hachem, Yotkevavke, qui désigne une autre modalité de l'intervention du Créateur dans l'histoire du monde. Tout cela, c'est pas simple à traduire directement, ça doit s'étudier. Je vous signale simplement le problème, et je referme la parenthèse. Vous verrez à ce propos à quel point c'est très difficile d'exprimer les nuances précises du texte hébreu dans une langue comme le français. D'autant plus, je crois que j'en ai parlé dans les premiers cours, que ce mot de Dieu en français renvoie à des idoles, des divinités païennes de la culture gréco-romaine, mais c'est le mot dont on se sert dans la langue pour désigner celui qui est ce que les goyim appellent Dieu. En tout cas, Vayar Hashem, qui rabat, suivez bien, Ra'at ha'adam ba'aretz, Ra'at, la méchanceté de l'homme, avait multiplié, était grande, ba'aretz sur terre. Voilà, l'idée ici est très simple, le diagnostic qui est porté, le verdict de ce jugement qui va aboutir à cette catastrophe du déluge, c'est une catastrophe énorme à laquelle on n'ose même pas réfléchir des problèmes que cela pose, parce qu'on est tellement familier à cette idée qu'il y a eu le déluge, et puis ça s'est passé depuis si longtemps, qu'on ne se rend pas compte du problème que cela pose, que dans le récit biblique, Dieu décide d'effacer complètement toute une civilisation humaine. Imaginez le nombre de drames à l'échelle individuelle, c'est une espèce de Shoah à l'échelle planétaire. Alors quand on fait allusion au déluge, comme si ça va de soi, on ne s'en rend pas compte à quel point le problème est important, il faut comprendre pourquoi la Torah a tenu à nous l'enseigner comme ça. Simplement, mettez en rapport l'événement du déluge en tant que sanction et la faute que c'est censé sanctionner. C'est-à-dire que c'est à la hauteur de la gravité de la faute dont il est parlé qu'on peut comprendre pourquoi il y a un tel niveau de châtiment. Quoique les mots de châtiment, c'est moi qui les emploie, ils ne sont pas encore dans le texte. Hein. Mais j'invite déjà à vous préparer à réfléchir à cela. On ne se rend pas compte de quoi on parle. Celui qui a créé le monde, et c'est dans le même récit, décide à un moment donné, on nous a expliqué à travers 10 générations les raisons, les circonstances, décide d'effacer toute la civilisation humaine, et il y a un rescapé qui est Noah. On est tellement, encore une fois, familier à ce récit qu'on ne se rend pas compte des problèmes que ça pose et qu'il faut y réfléchir pour en tirer les conséquences de savoir en quoi on croit lorsqu'on parle du Dieu de la Bible. C'est du Dieu de la Bible qu'il est parlé dans ce récit du déluge. Alors réfléchissez par vous-même et découvrez par vous-même l'importance du problème. Mais voilà quel est le diagnostic. Ce mot de Vayar et Dieu vit, ça c'est la traduction simple des traducteurs. Rao, ça veut dire voir. Mais en hébreu, ça a un sens, ça a plusieurs sens d'ailleurs, mais un sens profond pour notre contexte ici, c'est juger. Juger dans le sens de diagnostiquer. Par exemple, quand le verset dit « Et Dieu vit que la lumière était bonne ». Est-ce que Dieu a besoin de voir la lumière pour savoir qu'elle est bonne ? Le vayar, de vayar Elohim et Orkitov, c'est une signification plus profonde, il y a un jugement. Donc, vayar Hashem, qui rabattra à Adam Baharet, l'idée qu'il y a là, c'est que ce diagnostic indique que la saturation de violence, ra'at, est irréversible. Comment dit-on irréversible en hébreu ? C'est cette nuance que je vous ai exprimée en français, mais dites-la d'abord en hébreu. Comment on dit irréversible en hébreu ? Bilti'afir, ça veut dire ? Bilti'afir, on ne veut pas retourner. Donc il n'y a pas de revirement possible. Ça veut dire que c'est arrivé à une saturation irréversible, impasse, il n'y a plus de place pour l'éventualité du repentir. C'est quand ce diagnostic-là est porté que le verdict tombe. Mais le verdict était suspendu depuis que Caïn avait tué Abel. Est-ce que c'est bien clair, le problème ? Alors voilà donc ce diagnostic, retenez le terme de « Ra'at Adam ». L'homme est une créature de Dieu, et voilà que Dieu juge que sa créature est mauvaise. Réfléchissez bien à ça. Vechol yetzer, marchez votre niveau, et que toute tendance des pensées de son cœur, vous comprenez l'idée en français, ça veut dire tout ce qui est tendance innée de cette nature humaine, rach rach kolayom, n'est que mal toute la journée. Vous voyez, chaque jour, vous voyez cette espèce de niveau absolu d'un jugement sur lequel il n'y a plus à revenir. Un jugement sans appel, comme on peut dire en français. Et ça va aller encore beaucoup plus loin. Verset 6. Vaïnachem Hashem, et là encore, on va se heurter à ce problème de difficulté de traduction. Vaïnachem Hachem. Et alors on est obligé de traduire en français, et Dieu regretta, alors que Vaïnachem, ça peut vouloir dire aussi se consola de. Mais ici c'est plutôt le sens de regretta, qui a ça, et à Adam Baret, d'avoir fait, regretta, de ce qu'il avait fait, l'homme sur terre. Regardez bien le mot qu'il a employé. C'est le mot de Asa, faire, et pas de bara, créer. Le projet de la création de l'homme était bon, mais ce qu'il en est advenu, ce que l'homme a fait de lui-même, c'est devenu le mal. Ça aussi, c'est un problème sur lequel il faut réfléchir. Faites bien attention à la manière dont le texte se formule. Le texte ne dit pas que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, mais il a regretté de ce qui est devenu de sa création de l'homme. Est-ce que vous avez bien compris la différence, okay? C'est le terme de rasa qui est employé et pas de bara. Et il s'est affligé en son cœur. Comment la Torah peut parler comme ça en parlant de Dieu? Tout ça, ça s'étudie. Mais pour dire que, si j'ose dire, ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu va décider d'annuler l'œuvre qu'il avait créée au commencement, vu le résultat auquel ça a abouti. Alors vous voyez le monde de problèmes que cela pose, et surtout de faux problèmes, et qu'il faut évacuer à cause de questions de vocabulaire. Il est clair ici que la Torah nous dit que Dieu n'était pas du tout d'accord de détruire cette humanité, mais qu'on ne peut pas faire autrement. Pour que le monde ait une chance de réussir, d'aboutir au sens de ce qu'a été le projet du Créateur, il faut changer de manière d'être de cette civilisation humaine. On va voir que le terme qui va être employé pour dire ce qui est arrivé dans le déluge, c'est pas que Dieu a détruit la nature humaine, mais il a effacé la forme qu'elle avait prise dans cette civilisation-là. Vous remarquerez une chose d'ailleurs, que des grandes civilisations se sont succédées. Et elles ont toutes été détruites, mais pas la nature humaine, pas l'homme. L'homme n'a jamais été détruit, bien que les civilisations ont été détruites. C'est-à-dire la forme que l'identité humaine a prise à travers telle ou telle civilisation, une fois qu'il y a un diagnostic d'échec, cette forme-là disparaît, mais la nature humaine subsiste. Et de civilisation en civilisation, il y a toujours un rescapé qui représente le relais d'un rebondissement de l'histoire humaine après lui. Il y a un noir dans chaque passage d'une civilisation à l'autre. Je vais vous donner un exemple. Pas un exemple, je vais vous donner le schéma traditionnel du déroulement des civilisations tel que le Talmud nous le transmet. Et on verra que Israël a traversé toutes ces civilisations-là qui, une après l'autre, ont été détruites, mais la nature humaine, l'identité Adam, continue à être portée par une lignée qui traverse toutes ces civilisations qui, elles, sont mortelles. Mais cette lignée-là a une dimension d'éternité. Et on va arriver à, très rapidement à partir de la famille d'Abraham à s'habituer au fait que cette lignée est appelée par la Torah Israël. Mais avant qu'elle soit nommée Israël, vous verrez qu'il y a un changement de niveau d'envergure quand le nom d'Israël apparaît, il s'agit de la lignée Adam. Alors la lignée Adam, donc l'histoire de cet Israël a une préhistoire qui commence avec le premier homme. Cette lignée Adam traverse l'histoire des civilisations de Noé en Noé. Les autres, c'est les noyés, si j'ose dire, puisqu'il s'agit du déluge. Et alors, voilà quel est le schéma de ces civilisations. L'histoire a connu quatre grands empires. En hébreu, ça s'appelle les Malchouyot, les empires que l'histoire d'Israël a traversés. Il y a eu d'abord l'empire de Babel, la grande civilisation babylonienne de l'Antiquité, Babel. Et cette lignée Adam est sortie de la civilisation de Babel avec la famille d'Abraham. Ça, très rapidement, on arrivera à cette sortie de la famille d'Abraham de la civilisation de Babel, lorsque la civilisation de Babel aura été détruite. Si vous avez un peu étudié dans vos cours d'histoire, la préhistoire, eh bien, c'était des très grandes civilisations. L'identité babylonienne, bon, il en reste quelque chose un peu, je suppose, dans les classes que vous avez eues dans vos lycées. Vous avez sûrement eu des tableaux d'art de ce qu'était l'art babylonien. Ce sont des choses gigantesques. Il n'y a plus que des vestiges. Tout cela est perdu dans les sables de la préhistoire. Mais on s'aperçoit que c'est une grande civilisation et elle a disparu. Cette manière d'être homme ne pourra plus se retrouver. Elle a été effacée. Mais l'identité humaine qui était en jeu dans cette histoire, celle-là n'est pas détruite. Donc c'est toujours l'identité Adam, mais à travers des civilisations qui, elles, là je vous emploie une expression d'un grand philosophe français contemporain qui s'appelait Malraux, ça vous dit quelque chose ? Bon, alors c'est Malraux qui avait dit juste après la Grande Guerre, nous autres, civilisation, nous savons que nous sommes mortels. Effectivement, c'est après la Grande Guerre, on a découvert que l'humanité, qui se croyait immortelle, était sous la menace de la disparition totale à cause du danger nucléaire. Jusque-là, les individus se connaissaient mortels, mais l'humanité se connaissait comme immortelle. À partir du moment où on a découvert la bombe atomique et la bombe à hydrogène et tout le reste, je pourrais vous donner des cauchemars, mais il y a des armes encore pires que tout ça, qui sont dans les arsenaux militaires des grandes puissances, eh bien, y compris l'Irak, l'Iran, la Libye et tout le reste. Eh bien, Malraux a formulé ça en disant, après Hiroshima, maintenant, les civilisations savent qu'elles sont mortelles. C'est une époque dans l'histoire de l'humanité. Jusque-là, encore une fois, retenez la formule, les individus se connaissaient comme mortels, mais pas l'espèce humaine. C'était la grande différence, d'ailleurs, entre les espèces animales et l'homme. Les espèces animales, même à l'échelle individuelle, ne connaissent pas le sentiment de la mort. Tandis que l'homme, à l'échelle individuelle, le connaît, mais pas à l'échelle collective. Et voilà que depuis cette fin de civilisation de Rome, je vais arriver, c'est la quatrième, l'humanité se connaît comme étant elle-même mortelle. Alors vous voyez pourquoi c'est important de mettre en contraste ce que renseigne la prophétie biblique de cette dimension d'éternité qui traverse l'histoire d'Israël. Parce que c'est un grand mystère pour les historiens. Toutes les civilisations sont mortelles, il y en a une seule qui a traversé l'histoire, et c'est cette civilisation qui commence au premier homme, qui à travers Noé, à travers Abraham, va aboutir à l'identité d'Israël, qui est en survie perpétuelle, et c'est pour les historiens, les sociologues, les philosophes, c'est vraiment un mystère. D'ailleurs, les chrétiens appellent ça le mystère d'Israël. Je reviendrai un jour sur ce problème. Et alors donc, nous avons la civilisation de Babel. Et retenez bien ce schéma, vous allez le noter en tout cas dans votre tête, si vous ne le notez pas dans vos cahiers. Israël en puissance, Israël n'est pas encore en acte à ce moment-là. C'est l'identité des Hébreux, antérieure à Israël. Et puisque Abraham lui-même est un descendant de Hever qui a fondé la nation des Hébreux, vous avez dû voir ça dans la généalogie de Shem, eh bien, cette famille d'Abraham sort de la civilisation de Babel, et la civilisation de Babel disparaît, enfouie dans les sables de Ninive. Vous savez où est Babel en géographie? Où se trouve Babel en géographie? Vous suivez l'actualité? Dans Irak, très exactement à la frontière entre l'Irak et le Koweït. Il y a une petite bourgade qui s'appelle encore Babel, et c'est cette région-là qui est la Mésopotamie, la Babylonie, de cette antiquité d'où sort la famille d'Abraham. Alors ensuite, il y a eu la grande civilisation perse. Et de la civilisation perse, Israël était aussi en exil, comme les Hébreux étaient en exil à Babel. Eh bien, de la civilisation perse, nous sommes sortis au temps de Ezra et Néhémie, c'est le temps de la reine Esther et de Mardochée. L'événement qui commémore la sortie de la civilisation perse, c'est quel événement commémore ça à cette époque?
Pourri,
très bien. C'est Pessah qui commémore la fin de la civilisation babylonienne, donc la dernière, comment dire ça en français, la dernière dimension de cette civilisation de Babel, c'est l'Égypte. Je vous donnais un peu un exemple. Si on parle aujourd'hui de l'Amérique, eh bien on sait quand même que l'Amérique c'est une filiale de l'Europe au point de vue de la civilisation. De la même manière, l'Égypte était une filiale de Babel du point de vue de la civilisation de... Donc cette sortie de la famille d'Abraham d'Ur-Kasdim, elle est commémorée en fin de compte dans la sortie d'Égypte à Pessah. Purim, c'est la sortie de la civilisation de Perse. Ensuite, il y a eu le grand empire de la Grèce. Et nous sommes sortis de ce Malchut Yavan, de l'empire de la Grèce, ça c'est l'époque de Hanouka, avec les Maccabées. Et vous voyez donc les différents rythmes de l'histoire d'Israël à travers l'histoire des grandes civilisations. Donc Babel, Paras, la Perse, Yavan, la Grèce, et ensuite il y a les civilisations romaines qui durent depuis 2000 ans, et nous sommes en train de sortir de la civilisation romaine avec l'État d'Israël contemporain. Alors vous voyez les grandes dates. C'est Pessah, Purim, Hanouka et dans notre temps, Yom Hatzmaout. Et comme nous sommes les contemporains, et ça a dû se passer, ça s'est passé de la même manière à chaque contemporanéité, alors il y a une discussion de savoir si Yom Hatzmaout, on doit dire Hallel ou pas. Imaginez qu'au temps des Maccabis, il y avait la même discussion, est-ce qu'on dit Hallel à Hanouka ou pas. Finalement, c'est ceux qui disent Hallel à Hanouka qui sont restés dans l'histoire, et ceux qui disent pas Hallel à Yom Hatzmaout ont disparu. Bon, ben, vont disparaître. Alors en tout cas, pour revenir, c'est un peu comme Rome, elle n'existe pas, mais elle ne le sait pas encore. Elle n'existe pas.